écrire ce que j'ai intitulé Les ravages du formalisme abstrait. Donc c'est ce que je vais le plus détailler durant cette matinée. Et c'est ici que je développerai les deuxième et troisième thèses que j'avais explicitées dès le départ. Plus exactement, je le ferai en 5 points, les paragraphes de Hegel étant eux-mêmes extrêmement détaillés, donc j'ai déjà pour cela fait un effort de synthèse. Dans un premier temps, je vais essayer de revenir sur cette idée de subjectivisme et de décrire en quoi ce moment aussi nécessaire qu'on l'a vu tout à l'heure est en même temps le lieu de l'origine de ce mal politique-là. Il y a plusieurs mots politiques selon Hegel, mais en tout cas, c'est celui-ci qui va nous intéresser, celui du formalisme. Dans un deuxième temps, j'entrerai dans le mécanisme qui fait qu'on passe de la bonne intention à la manière de Robespierre, hein, l'éloge de la vertu, au mal le plus terrible. Ce sera le deuxième point. Dans un troisième temps, on envisagera les conséquences de cette contradiction, donc une fois le retournement opéré, ce à quoi on aboutit, donc la vanité du formalisme, on pourrait l'intituler comme ça. Je vous montrerai ensuite que ce mal politique, et c'est là sa force en tant que mal et en même temps la difficulté qu'on a à le dépasser, est accompli en toute bonne conscience. Donc ce sera l'avant-dernier point de cette présentation. Et enfin, je vous montrerai, ou je rappellerai, si vous connaissez déjà cette thèse, que ce mal politique-là est aussi affreux que nécessaire. Et c'est à partir de la compréhension des ravages de ce formalisme abstrait qu'il deviendra possible de comprendre ou d'esquisser ce à quoi devrait ressembler un bon formalisme, ce que j'opérerai dans ma conclusion. Alors commençons par revenir sur cette subjectivité qui se décline très vite, selon le mot de Hegel lui-même, en subjectivisme. Hein. On a une nuance ici importante. La subjectivité, alors c'est compliqué à définir, mais globalement c'est le moment de la moralité, c'est-à-dire le moment pendant lequel l'esprit s'affirme face à la totalité, ou face à l'universel, ou par l'universel, selon les moments où on se situe. Mais la subjectivité devient subjectivisme quand elle tend à laisser passer pour universel ce qui, en réalité, ne revient qu'à elle, à sa particularité. Donc le subjectivisme, ça ne va pas être simplement de vouloir imposer quelque chose qu'on sait être particulier, ça va être plus compliqué que cela et plus pervers. Ça va être d'avoir l'illusion que ce qu'on fait, ce qu'on veut ou ce qu'on commande est universel, alors que ça n'est que particulier. Je vous cite le paragraphe 108, juste une phrase. En tant qu'elle est immédiatement pour soi et distincte de la volonté existant en soi, la volonté subjective est par suite abstraite, limitée et formelle. Voilà notre équivalence qui résume tout ce que j'ai préparé durant l'heure précédente. La volonté subjective est abstraite, limitée et formelle. Alors, abstrait, ça revient souvent dans le vocabulaire hegelien. Chaque moment, en contradiction avec un autre, est abstrait au regard de l'étape suivante. En fait, tout est abstrait chez Hegel, sauf le dernier moment, mais qui lui-même n'a de sens que par les moments précédents, donc d'un certain point de vue, il est aussi abstrait. Donc abstrait ne veut pas dire compliqué à penser ou qui est loin de notre sensibilité immédiate. Ça peut vouloir dire ça, mais ça veut surtout dire qu'il n'est pas complet dans son processus. Donc la volonté subjective, je le répète, éloge de Kant, elle est un moment nécessaire dans le développement du droit, et en même temps, elle n'est qu'un moment abstrait. En cela, elle est limitée. Là, c'est presque équivalent. Limitée en tant que particulière, si on veut être plus précis, par rapport à ce que l'universel réclame, s'il fallait une nuance. Et en revanche, le dernier terme m'intéresse beaucoup, elle est par suite abstraite, limitée et formelle. Autrement dit, le type même de l'abstraction à laquelle on a affaire maintenant, c'est le formalisme. Qu'on dise du formalisme qu'il est abstrait, Kant lui-même ne l'aurait pas refusé, au sens où on prend des critères logiques très généraux, très génériques, très synthétiques, pour parler de devoirs particuliers dans des situations elles-mêmes particulières. Donc, de ce point de vue-là, c'est abstrait, c'est pas un problème. Et c'est formel. C'est même parce que c'est formel que ça peut ensuite s'appliquer à différentes matières de l'expérience. Donc, ça, c'est pas un souci. Quand, ici, Hegel dit que cette volonté subjective est abstraite, limitée et formelle, il veut dire qu'elle est formelle au sens de l'abstraction et de la limitation, c'est-à-dire que ce formalisme est pervers, qu'il ne va pas nous protéger de quoi que ce soit, mais au contraire, être l'occasion d'un mal. Alors, revenons juste un petit peu en arrière. Pourquoi est-ce que cette volonté est subjective? Pourquoi est-ce que cette personnalité morale qui se présentait comme un moment nécessaire du développement du droit reste particulière? Eh bien, d'abord, dans l'ensemble du système hegelien, parce qu'on est très loin d'avoir accompli toutes les étapes, donc elle est forcément moins accomplie que les moments suivants, et parce que dans les faits, dans les moments où elle cherche à adopter un point de vue universel sur les choses, à dire ses devoirs, eh bien, elle continue de se référer à la particularité. Alors, ça peut être celle de l'époque, ça peut être celle de son histoire personnelle, ça peut être celle de la mode du moment. Autrement dit, au moment où elle croit s'élever au-dessus des contingences, et c'était son but, hein, en quittant la priorité du bonheur, dépasser les contingences d'un bonheur difficile à vivre, au moment où elle cherche par le devoir à s'élever à une universalité qui serait plus satisfaisante et plus objective, grâce au formalisme, eh bien, elle y retombe dans cette particularité, mais cette fois, avec l'aide du formalisme. Vous pouvez toujours dire, le bonheur n'est pas une priorité parce que c'est compliqué, parce que c'est contingent, parce que je trouve pas la recette, parce que ma sensibilité, elle évolue, etc. Et vous dites, bon, bah, je vais prendre une autre finalité, donc vous prenez le devoir. Mais vous n'êtes pas parti d'un formalisme pour arriver à cet autre objectif. Lorsque vous dites « le devoir devient le cœur de ma vie morale », nous fait comprendre Hegel, eh bien, vous allez retomber dans une contradiction, puisqu'il y a toujours des contradictions qui s'accumulent, mais cette fois, vous le faites à partir d'un formalisme. Donc il fallait toutes ces étapes pour comprendre qu'on doit arriver au formalisme, que c'est la même chose que le moment du devoir, mais il faut comprendre que la contradiction spécifique dans laquelle on va s'installer sera une contradiction interne au formalisme, et que pour cette raison, ses conséquences seront bien plus ravageuses que les mots ou les contradictions qu'on a pu rencontrer jusqu'alors. Les contradictions du droit abstrait que j'évoquais tout à l'heure, bon, il peut y avoir des fraudes, il peut y avoir des déceptions personnelles, etc. Mais bon, c'est pas le pire. Le moment de la terreur, c'est ici qu'il intervient. Et il ne peut intervenir ici que parce que la terreur s'appuie sur le formalisme. Alors, voyons ce que ça donne avec un deuxième extrait du même film. Merci, chère Sabine. Nous sommes dans l'Assemblée de la Convention et Robespierre et ses plus proches amis vont développer un discours, vous allez voir, qui résume très bien cette alliance qui, jusque-là pour eux, dans le premier extrait, était une énigme et un danger. Le discours de Robespierre tout à l'heure était un peu inquiet, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et là, il devient parfaitement certain.
Nous connaissons nos ennemis. Ceux parmi nous qui continuent à souhaiter que nous perdions ces guerres. Mais ils se moqueront plus longtemps de nous en proclamant que nous ne pouvons pas prouver leur trahison. C'est simple. Obligeons-les à prouver leur propre innocence. Tous ceux qui ne pourront pas apporter une preuve tangible de leur engagement pour la révolution seront automatiquement passibles d'arrestation. Nous proposons aussi d'élargir le rôle du tribunal révolutionnaire. Pour le moment, seule une section siège régulièrement. Nous proposons d'en ajouter trois autres pour aider à mener à bien cette importante tâche patriotique. La terreur, c'est à vertu est impuissante.
Voilà, alors le discours est assez terrible. Vous voyez qu'on est passé d'une inquiétude à un discours parfaitement assumé, où les deux termes de terreur et de vertu deviennent équivalents. On a une quasi-identité de l'un et de l'autre. Alors, la question qui se pose à nous, et qui correspond à l'analyse hegelienne, c'est comment on passe, alors dans le film, d'une inquiétude à une certitude, et plus généralement pour nous, comment le formalisme qui, je l'ai dit dès le départ, est censé être une garantie contre l'arbitraire et le mal, a l'occasion d'un mal spécifique. Dans le vocabulaire hegelien, comment la contradiction interne à la moralité s'accomplit-elle en mal au point qu'il faut passer au dernier moment du droit. Ça revient à ça. Donc là, nous sommes en train de travailler sur la toute dernière section du deuxième moment des principes de la philosophie du droit, c'est-à-dire le passage de la moralité à la vie éthique. Et c'est ici que Hegel est à la fois méticuleux et génial, parce qu'il arrive, tout en repartant des critères kantiens du bien, du droit, du juste, à montrer comment, à l'intérieur de cela, on a une contradiction, alors même qu'on est censé appliquer le critère de non-contradiction, et que toute la terreur de la Révolution française, et d'autres épisodes aussi funestes, sont contenus dans cette contradiction-là. Alors quel est, deuxième point, le mécanisme de ce retournement ? Eh bien le mécanisme de ce retournement, c'est que tout formalisme, compris à la manière de Kant, critère de l'universalité, ou ce qui revient au même, critère de non-contradiction de la volonté avec elle-même, est nécessairement abstrait. Question abstrait de quoi ? Qu'est-ce qu'on a abstrait dans ce formalisme ? Eh bien, on a abstrait la matière des mœurs elles-mêmes. On va prendre le texte 6, cette fois extrait de la phénoménologie de l'esprit, où Hegel exprime cette vanité du formalisme, au sens où dans le formalisme, il n'y a plus que la forme, c'est-à-dire une forme vide. La volonté universelle se concentre en soi-même et est volonté singulière. Bon, pour être précis, il aurait fallu mettre particulière, mais parfois il y a un flottement dans les termes hegeliens, peu importe. Donc la volonté universelle se concentre en soi-même et est volonté singulière en face de laquelle se tiennent la loi et l'œuvre universelle. Elle ne laisse rien se détacher d'elle sous la figure de l'objet libre passant en face d'elle. Il en résulte qu'elle ne peut parvenir à une œuvre positive, ni aux œuvres universelles du langage et de l'effectivité, ni aux lois et aux institutions universelles de la liberté consciente, ni aux opérations et aux œuvres de la liberté voulante. Alors, c'est une manière de dire que quand vous vous détachez des mœurs pour dire « je ne vais prendre que le critère logique, le critère formel », eh bien, en fait, vous avez détruit cela même que vous pensiez construire, structurer, analyser. Comment est-ce possible ? Eh bien, dans ce devoir fait par amour du devoir, c'est comme ça que Hegel lit la philosophie morale de Kant, un devoir pour l'amour du devoir, on ne peut pas ne pas partir d'une certaine matière. Le formalisme, qui prétend ne s'intéresser, comme le terme l'indique, qu'à la forme, pour les raisons que j'ai déjà dites, croit que la forme est détachable de la matière des mœurs. Par exemple, si on punit quelqu'un parce qu'il a volé ou parce qu'il a menti, Kant dira « on peut relever que cette mauvaise action est punie parce que il y avait une contradiction interne à la volonté de la personne, et donc le critère de la contradiction devient le critère du mal. » Or, ce qu'objecte Hegel, c'est que pour punir quelqu'un qui a volé, il faut déjà que, je l'ai dit tout à l'heure, la propriété privée ait été instituée. Or, si elle a été instituée, et si l'on en profite pour dire donc qu'il y a un critère formel, on peut partir certes de l'exemple de la punition pour remonter au formalisme, mais on ne peut pas redescendre du formalisme à la propriété privée. Que vous le vouliez ou non, vous ne pourrez jamais déduire la propriété privée de la forme de l'impératif catégorique. De l'impératif catégorique, vous ne pouvez déduire, c'est ce que dit ce texte, aucune œuvre positive. Vous êtes là, avec votre non-contradiction de la volonté avec elle-même, et vous pouvez, là encore, vous contenter de ne pas faire grand-chose, ou presque. Vous pouvez considérer que le vol est immoral dès lors qu'il y a une propriété privée, ou ne jamais parler de vol dans une société où la propriété privée n'existerait pas. Ce qui n'est pas contradictoire, en l'occurrence, c'est que l'interdit du vol, ou l'inexistence même d'un interdit du vol parce qu'il n'y a rien à voler, sont, dans les deux cas, moraux. Autrement dit, vous pouvez mettre en face l'inexistence d'un devoir ou un devoir et dire « ces deux choses-là sont morales, on a un problème quand même ». Ça veut dire qu'une société où la propriété privée existe vaut autant qu'une société où la propriété privée n'existe pas. Après tout, pourquoi pas ? On aurait quelque chose d'amoral, c'est-à-dire c'est ni bien ni mal. Pourquoi pas ? Déjà, c'est bizarre, hein, parce que si ça fait le jeu d'options et de débats dans la philosophie politique et morale, c'est que, voilà, il faudrait pouvoir trancher. Mais admettons que ce soit amoral, ça veut dire qu'ensuite, dans une société, vous dites « il est interdit de voler », et dans l'autre, vous ne pouvez même pas dire cela. Donc vous avez un commandement qui fait absolument sens dans une société et qui n'existe pas dans l'autre. Je ne parle pas simplement de deux expressions différentes d'un même devoir. Ça, ça peut arriver, c'est pas grave. Qu'on exprime un même devoir de deux façons différentes dans deux sociétés différentes, ça n'a aucune incidence. En revanche, qu'un devoir hyper important dans une société n'existe même pas et ne vienne même pas à l'esprit d'autres personnes dans une autre société, ça, c'est une véritable contradiction. Donc vous voyez que si l'on peut abstraire la forme par l'analyse de la matière des mœurs et des commandements qui s'y trouvent déjà déposés, il est impossible ensuite de se servir de ce critère formel pour redescendre vers la matière des mœurs. On va prendre de la même façon le texte 7, qui est le plus virulent dans cette critique du formalisme, et ainsi, il est en soi contradictoire de chercher une législation morale, puisqu'elle devrait avoir un contenu, auprès de cette raison pratique absolue, puisque son essence consiste dans le fait de n'avoir aucun contenu. On arrive à cette contradiction totalement démentielle qu'il est immoral de chercher à expliciter la morale. Et pourquoi ? Parce que le formalisme vous réclame d'avoir quitté la matière de vos maximes, de vos lois, et que comme il faudra en remettre pour appliquer ce formalisme, eh bien vous vous trouvez dans une contradiction. Si le critère formel suffisait, encore une fois, Hegel ne dit pas qu'il ne compte pas, il dit simplement qu'il n'est pas suffisant. S'il suffisait, alors on pourrait, idéalement, déduire la matière de la forme elle-même. Ce qui veut dire que, dans tous les devoirs qu'il énonce, Kant relève un critère qui peut permettre de vérifier si un devoir qui est déjà là ou non est moral, mais à aucun moment un critère qui permet de créer ou d'énoncer des devoirs desquels on ne serait pas déjà parti. Alors, d'un certain point de vue, c'est aussi ce que fait Kant, hein, d'analyser des propositions qui sont dans les mœurs. Donc, on peut dire que ce n'est pas là où le bât blesse totalement. Mais ça veut dire que tout n'est pas seulement formel. Et qu'il faut accorder au moins autant de valeur aux mœurs, c'est-à-dire à l'histoire des commandements tels qu'ils se sont déposés dans telle ou telle société, qu'à la forme par lesquelles on analyse leur valeur. Pour le dire autrement, c'est la même idée, Kant a manqué le rôle de l'histoire dans la fabrication des lois. On pouvait s'y attendre. En même temps, Kant est déjà un peu penseur de l'histoire, mais c'est balbutiant. Et puis, ça ne va pas jusqu'à s'exprimer dans sa philosophie morale, en tout cas la plus systématique. Kant se met à la philosophie de l'histoire, surtout après la Révolution française, de fait. Les principales œuvres de la philosophie morale sont déjà écrites, et il ne fait pas un erratum en disant « n'oublions pas l'évolution des mœurs qu'il faut prendre en compte ». Non, il n'y a pas. Et ce serait difficile de rester conscient tout en envisageant cette évolution des mœurs. Il y a quand même quelque chose d'éternitariste dans cette philosophie morale. Donc, Première raison à ce retournement, c'est que quand on ne tient pas compte des mœurs telles qu'ils sont déjà là, le critère purement formel ne peut que conduire à une vue abstraite de ce qui est bien ou de ce qui est mal. Alors vous me direz, on n'a pas encore la terreur pour autant. Non, mais on a de quoi y arriver. D'où le point suivant. Quelles sont les conséquences de cette vanité du formalisme? Je prends le mot vanité en ces deux sens, parce qu'ici, ils nous servent beaucoup. Vain, c'est-à-dire rien. Donc le formalisme est vide. Et vain, vanité au sens de la prétention, au sens où il fallait beaucoup d'orgueil à Robespierre et aux différents comités du salut public pour faire au moins deux choses. Et je parle de cela parce qu'ils sont symptomatiques, mais pour beaucoup, ça concerne une grande partie des révolutionnaires. Il fallait de l'orgueil pour dire « on va recommencer tout ». On va partir d'un néant, c'est-à-dire on commence par détruire ce qui était là et on rebâtit d'un bout à l'autre l'édifice du droit. Pour Hegel, c'est le début de la fin de commencer par cela, parce que ça revient à vouloir commencer le droit indépendamment de toute histoire. Et c'est là une des origines des mots révolutionnaires. Il y a une deuxième raison à cette vanité, elle est peut-être plus propre à Robespierre et à ses proches, ceux du comité du salut public, c'est qu'il faut aussi une belle dose de prétention pour être sûr de voir plus clair dans les idéaux de la Révolution française, toute jeune, indécise, imprécise, en gestation, pas encore formalisée, que la totalité des citoyens et que le peuple lui-même qu'on prétend rendre heureux. Ça, c'est une des grandes difficultés de tout philosophe moral. Je suis obligé de tenir compte de votre point de vue, mais j'aurais tendance à vous dire « tais-toi et écoute ». Alors, c'est une contradiction, hein, surtout chez les philosophes comme ça qui prétendent partir des mœurs pour penser la moralité. C'est une contradiction partielle chez Aristote, c'est une contradiction partielle et même peut-être plus forte encore chez Kant. C'est une contradiction dans l'esprit de Robespierre. Alors, quelles sont les conséquences de cela? Eh bien, on va l'apprécier d'abord par un petit extrait. Oui, c'est ça. On va changer de film. Cette fois, on va prendre un extrait du film qui s'intitule « Danton » de Vaïda. Alors, je ne tombe pas. Et vous allez voir ce que c'est que partir de rien jusqu'à incarner l'absence de chair. Je précise, c'est le dîner historique entre Danton qui revient de son exil temporaire à la campagne et Robespierre qui commence à se méfier de Danton en pensant que populaire et riche, il va se donner les moyens de prendre le pouvoir là où Robespierre prétend justement sauver la révolution. Donc pour Robespierre, il s'agit de sauver la révolution contre Danton et pour Danton, il s'agit de sauver la révolution contre Robespierre. Et ce qui est intéressant, c'est que Danton, dans cette scène, incarne la vie, la chair, l'histoire, la proximité avec le peuple, et que Robespierre, c'est Kant, c'est la vertu, c'est la froideur, c'est la désincarnation.
L'ange. Impossible. Pourquoi? Parce que je n'approuve pas le gouvernement. J'ai le droit. Mais pas le droit d'en faire état. Surtout pas toi. Mais tu ne connais pas que je me rebelle devant eux, non? Tu te crois au-dessus du gouvernement? Tout individu exceptionnel est supérieur à la masse. Je méprise les comités autant que toi, tu méprises tout le monde, moi je le dis. Personne ne doit nous diviser, Maximilien. Personne. Aucun comité, aucun gouvernement, personne. Méfie-toi, séparez-nous comme tous les deux. Et si tu continues avec ta terreur, je ne pourrai pas te suivre. Et d'ailleurs, personne ne te suivra. C'est le peuple qui nous a portés déchirera la révolution.
Et qui en est coupable?
C'est pas moi. Puis c'est certainement pas toi non plus. Mais alors si nous ne sommes pas coupables, c'est la nature des choses.
Mais je n'ai jamais cru à la nature des choses.
Moi non plus. Moi non plus. Au fond, nos convictions sont les mêmes.
Elles ne le sont plus. Nous avons fait la révolution pour donner au peuple la vertu et l'égalité.
Et tu passes ton temps à couper toutes les têtes qui dépassent. C'est pour ça que nous avons lutté.
Moi prends la défense du peuple. Personne ne l'a défendu.
Contre qui?
Contre les hommes qui ne font que s'enrichir par le biais de la révolution. Oui ou non, Georges?
Maxime, ce que tu veux faire avec les hommes, c'est comme des romans. Ce sont des héros de romans. Hein? Mais tu oublies que nous sommes faits d'os et de chair. Tu oublies ça. Tu veux nous élever jusqu'à des sommets où il est impossible de respirer. Résultat, tu isoles la révolution, tu la glaces. Même les plus fervents reculent.
Tu me conseilles quoi?
Il faut ramener les choses à notre niveau maintenant, tout de suite.
Arrêter le processus révolutionnaire, c'est la mort de la révolution.
Ce que veulent les gens, c'est manger et dormir en paix. Là où il n'y a plus de paix, il n'y a plus de loi, plus de liberté, plus de justice, plus de république. Maxime, j'emmerde les comités. Toi, je t'aime. J'aimerais tellement vouloir te suivre, mais pas n'importe où, pas n'importe où.
Ce que je veux, c'est offrir des conditions de vie normales à 80% des gens. C'est tout ce que je veux.
Oh, arrête, je te connais. Arrête. On n'est pas très bien ici. Ce n'est pas tout ce que tu veux. Il n'est pas bon que les mêmes hommes gouvernent trop longtemps.
Tu rêves du pouvoir?
Il n'est pas en rêve. Je l'ai. Le pouvoir, je l'ai, le vrai, le seul pouvoir, la rue. Parce que moi, la rue, je la comprends et elle me comprend, n'oublie jamais ça, n'oublie jamais.
Moi, je ne l'oublie pas. Toi, n'oublie pas de ton côté. Que pour faire enfin le bonheur de la rue, je ne reculerai devant rien.
Tu veux faire le bonheur de la rue? Et tu ne savais pas ce que c'est que le peuple? Qu'est-ce que tu connais du peuple? Rien, regarde-toi. Tu vois pas de mal, t'as les cheveux bourrés. À la vie d'une épée, tu t'évanouis. Et t'arrêtes à jamais baiser une femme, là. On ne me quitte pas! Tu veux faire le bonheur des hommes et t'es même pas un homme! Tu veux que je te dise ce que c'est tout ça? Tu veux venir faire un tour avec moi dans la rue? Oh! Excuse-moi. J'ai toujours été brutal et maladroit. Je me suis réveillé cette nuit et je me suis dit qu'on ne nous sépare toi et moi, mais qu'on nous prenne pour des ennemis. Mais ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens. Il faut arrêter. Arrêter ça tout de suite.
Alors fais ce que je te demande.
Comment ça?
Georges, fais ce que je te demande, rallie-toi à nous.
Je suis parti à la campagne pour réfléchir et pour tout revoir depuis le début. Et je vais te dire, franchement, très franchement, je préfère être guillotiné que guillotineur.
De quoi parles-tu? Tu es complètement ivre.
Si tu t'obstines, Maxime, tu vois cette tête? Tu vois cette tête? Tu la sens? Hein? Eh bien, ce sera toi qui seras obligé de la couper.
Alors, on peut s'arrêter là. Je ne sais pas si c'est historique, mais sous l'effet du vin, Danton s'endort dans le film sur les bras de Robespierre. Donc c'est un peu... Alors, quand je vous disais qu'il y avait le pôle de la chair, de la vie, du peuple, d'histoire et de l'autre, l'homme imperturbable, qu'ancien jusqu'au bout des ongles, là, on a vraiment cela. Je ne pense pas que les scénaristes soient partis de Kant, ni de Hegel d'ailleurs. Je pense qu'ils sont partis des témoignages historiques. Et bien que ça puisse paraître assez caricatural, Robespierre avait aussi l'art parfois d'entrer dans des caricatures. Quand on lit ses discours à la Convention, il y a quand même des paroles qui font froid dans le dos. Alors, essayons de comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qui se joue dans cette scène et en quoi est-ce que ça montre bien la vanité du formalisme? Eh bien, ce qui est formidable, c'est que tout ce que dit Robespierre, et tout ce qu'il fait, puisqu'on est déjà engagé dans la Révolution, on coupe les têtes à la chaîne, etc., il le fait au nom des idéaux de la Révolution française. C'est pas exactement la même chose que la non-contradiction de la volonté avec elle-même, hein. Il n'a pas Kant à son chevet. Mais ça revient au même, en réalité. Car il s'agit de partir d'idéaux, la fraternité, l'égalité, la liberté, etc., et de dire tout ce qu'on doit faire doit correspondre à ces exigences-là. Et comme, de fait, ces idéaux sont des idéaux universalisables, en fait, ça revient à appliquer les critères du formalisme moral tel que Kant le développe. C'est pour ça que Hegel n'a pas de mal à affirmer, un peu plus loin dans la phénoménologie, que la terreur, c'est Kant appliqué. C'est le moment le plus kantien de l'histoire, selon lui. Parce qu'on s'attache à un formalisme vide qui, au-delà de cet épisode, est le risque de toute forme d'idéalisme politique. L'idéalisme, c'est très bien. Il faut que ça guide des projets, que ça enthousiasme des peuples, que ça fonctionne comme une dynamique dans des sociétés. Mais il faut bien vérifier que les mots recouvrent des sens précis. Parce qu'il y a un idéalisme enthousiaste qui prend prétexte d'un mot pour manifester un enthousiasme, et puis il y aurait un bon idéalisme qui enthousiasme parce qu'il a mis en place des mots qui avaient un sens. À l'échelle d'une nation tout entière, c'est un peu compliqué d'avoir ce sens-là. C'est possible, c'est ce qu'il faudrait, mais dans les faits, on met un peu ce qu'on veut derrière l'enthousiasme du patriotisme. Pas totalement, c'est vrai. On partage une langue, on a une histoire, on l'exprime dans un événement commun. Mais on n'a pas que des esprits hégéliens qui analysent les termes dans un peuple. Donc ce que je veux dire par là, c'est que l'épisode de la terreur, il est particulièrement symptomatique de ce que Hegel aperçoit comme retournement de la bonne intention en son contraire, mais en réalité, il éclaire tout un tas de mécanismes où un certain formalisme, plus ou moins conscient, ça c'est pas grave, devient le prétexte pour des gens mal intentionnés, ou bien l'occasion pour des gens bien intentionnés de tomber dans les pires excès. Quand on y regarde dans l'histoire, les grandes tueries sont souvent animées par des grands idéaux, peut-être pas toutes, mais tout dépend ce qu'on met derrière ces idéaux. Voilà, c'est ça la question. Et plus c'est vide, même si on a fait ce vide malgré soi et par de bonnes intentions comme Kant, nous dit Hegel, plus c'est vide et plus ça va créer du vide autour de soi. Voilà l'idée de départ de ce retournement, autrement dit, pour citer Pascal, qui veut faire l'ange fait la bête, et c'est très exactement la situation de Robespierre, c'est au nom du peuple, de la rue, qu'il est prêt à user de tous les moyens. Autrement dit, et si on l'avait laissé faire jusqu'au bout, au nom du bonheur du peuple, il aurait tué tout le peuple, car un peuple inexistant est forcément un peuple heureux. Voilà la non-contradiction la plus parfaite. Il se serait retrouvé tout seul en disant « Voilà, maintenant il n'y a plus d'ennemis de la Révolution ». Bon, couper toutes les têtes qui dépassent, c'est exactement l'expression que prend Danton dans cet extrait, et c'est ce qu'il se prépare à faire. Alors, un dernier extrait justement sur les contradictions du formalisme kantien auquel ça aboutit, et je vous dis, cet extrait en est une illustration parmi tant d'autres, c'est l'interdit du mensonge. Voilà un des exemples canoniques de Kant. Si moi je voulais ne pas dire la vérité, il faudrait que je me présente comme une exception, parce que j'ai besoin que les autres disent la vérité pour que mon mensonge fonctionne. Si tout le monde ment, mon mensonge devient peu opératoire. Donc, soit tout le monde dit la vérité sauf moi, soit tout le monde dit la vérité tout court. Et comme ça m'arrange, je vais considérer que je peux mentir, donc on sera dans le mal moral. Or, les grands idéaux de fraternité, d'égalité, de liberté, par respect de la Révolution française, c'est l'art d'être sincère jusqu'au bout, de dire la vérité au peuple, de rejeter les ennemis du peuple. Or, en réalité, Hegel nous dit ceci, c'est l'objet du texte 9. Chacun a le devoir de dire la vérité. Dans ce devoir, énoncé comme inconditionné, sera admis sur le champ la condition s'il sait la vérité. Le commandement s'énoncera donc ainsi. Chacun doit dire la vérité toutes les fois suivant la connaissance et la persuasion qu'il en a. La saine raison, c'est-à-dire cette conscience éthique qui sait immédiatement ce qui est juste et bon, expliquera qu'une telle condition était déjà tellement liée à sa sentence universelle que cette raison a toujours entendu ainsi ce commandement. Mais de cette façon, elle admet en fait que déjà dans l'énonciation, elle a immédiatement violé ce même commandement, Elle disait, chacun doit dire la vérité, mais elle l'entendait ainsi, il doit la dire suivant la connaissance et la persuasion qu'il en a. C'est-à-dire qu'elle parlait autrement qu'elle pensait. Et parler autrement qu'on ne pense signifie ne pas dire la vérité. En encourageant la non-vérité de la sentence, on a maintenant l'expression suivante. Chacun devrait dire la vérité suivant la connaissance et la persuasion qu'il en a à chaque occasion, mais ainsi, l'universellement nécessaire, valant en soi que la proposition voulait énoncer, s'inverse plutôt en contingence complète. Elle promet un contenu universel et nécessaire et se contredit elle-même par la contingence de son contenu. C'est dur, hein ? Alors, déjà tout à l'heure, il était immoral de chercher la morale. Maintenant, toute personne qui énonce un devoir de façon catégorique renvoie à des hypothèses sans les dire. Donc non seulement il n'y a pas d'impératif absolu, c'est embêtant, mais de surcroît, cet impératif absolu ne se dit pas, ne se dit pas entièrement, donc on est dans la demi-vérité au moment où on énonce le devoir de vérité. Bon. Eh bien, ce genre de retournement, à partir du formalisme, c'est celui de la contradiction, dans les termes de ce texte neuf, de la contingence et de l'universel, ou, pour le vocabulaire des principes, du particulier et de l'universel. Question. Quand le formalisme permet ce retournement, qu'est-ce qui s'insère à la place ou en plus ou à l'insu de l'universel? Eh bien, ce qu'on veut. C'est-à-dire que on est sorti du droit abstrait pour assumer la particularité. La particularité s'est aperçue de sa contradiction, elle est passée à l'universel, mais elle reste le moment du particulier, de sorte que le particulier revient dans l'universel, mais sans s'apercevoir qu'il s'est dissimulé à lui-même. Et la conséquence la plus terrible, et on est en train de terminer l'explication de ce mécanisme de retournement, c'est que si l'on avait encore de quoi se méfier de soi-même dans les opérations antérieures, maintenant, on devient victime de soi-même. Mais pas juste parce que, voilà, quand on est au fond de la caverne, on est pris par l'illusion, etc. C'est parce qu'on a créé soi-même son propre piège. Parce qu'on s'est, comme Robespierre, tellement attaché aux idéaux de la Révolution française, à des abstractions, voilà le mal. Eh bien, on s'est tellement forcé à les retrouver partout et tout le temps qu'elles deviennent l'occasion d'un mal dont on n'a plus les moyens de se protéger. La bonne intention se transforme en son contraire, non pas parce qu'elle était une bonne intention naïve, mais parce qu'elle s'est voulue une bonne intention formaliste, technicienne, argumentée. C'est parce qu'on a voulu faire le bien en technicien qu'on devient un technicien du mal. Et s'il faut couper toutes les têtes pour que le peuple soit heureux, on le fera. Parce que, après tout, ce ne sont que des têtes, des matières, au regard d'une forme, vocabulaire kantien, ou d'idéaux, vocabulaire de Robespierre, qui priment avant toute chose. Alors, c'est là où Hegel est encore plus précis, et qu'on entre dans le détail du détail, c'est qu'il va développer tout un paragraphe, le paragraphe 140, dans les principes de philosophie du droit, où il va détailler les différentes figures du mal. Et alors là, c'est assez formidable, parce que on en a au total 6, l'ironie, le probabilisme, la conviction, la mauvaise foi, etc. Bon, on va pas toutes les voir, mais qui sont un peu, si vous voulez, comme le résumé en 2-3 pages de toutes les perversions dans lesquelles l'humanité est tombée au fur et à mesure des temps, chaque fois qu'elle a voulu trop bien faire. À la rigueur, c'est moins dangereux de laisser parler en soi le bon sens, pourrait dire Hegel, bon sens populaire, que de vouloir tellement théoriser le bien qu'on ouvre de nouveaux pièges desquels on ne peut pas sortir, sinon acculé par une situation totalement démentielle comme celle de la terreur. La terreur, pour Hegel, c'est d'avoir laissé jusqu'au bout se développer une abstraction en pensant jusqu'au bout que tout était justifié, et de ne pouvoir s'apercevoir seulement qu'au bout, quand vraiment tous les recours de l'abstraction sont épuisés, que c'était une erreur. Donc, encore une fois, on est bien au-delà de l'erreur immédiate ou de l'illusion simple à débusquer. On est dans un mécanisme complexe de bonne intention qui passe par l'analyse, qui dévoile des critères, qui cherche à les appliquer scrupuleusement, donc la rigueur entre en scène, qui, ayant fait ce travail, se présente comme altruiste, c'est au nom du peuple, et qui, parce qu'on a tous ces jalons dans le parcours d'une décision qu'on prend, empêche de revenir sur la décision. Et donc la rigueur de l'homme droit, juste, moral, vertueux, eh bien, est le pire piège dans lequel on pouvait tomber soi-même. Alors prenons, s'il vous plaît, le début de ce paragraphe 140, et on va développer deux de ces figures du mal. Certaines sont plus faciles à étudier que d'autres. Alors, il y aura un tout dernier extrait à la fin. Mais on peut rallumer les lumières quand même. Donc, paragraphe 140, lisons d'abord le paragraphe lui-même et le début de la remarque, c'est le texte 11, qui est très long, mais on ne le verra pas en totalité. Lorsque la conscience de soi devient capable de mettre en relief dans son but un côté positif, car des côtés positifs, le but en a nécessairement, parce qu'il appartient au projet d'une action réelle, concrète. Elle peut alors, eu égard à ce côté positif considéré comme un devoir ou une excellente intention, affirmer, pour les autres et pour elle, comme bonne une action dont le contenu, essentiellement négatif, est manifeste. Pour elle, en tant qu'elle est conscience réfléchie sur soi, et qu'elle est par conséquent consciente de l'universalité de la volonté à laquelle elle le compare. Lorsque l'action passe pour bonne aux yeux des autres, c'est l'hypocrisie, mais si c'est à nos propres yeux, c'est la forme extrême que prend la subjectivité se posant comme absolue. Et le début de la remarque, cette dernière forme, qui est la forme la plus abstruse du mal, celle par laquelle le mal se transforme en bien et le bien en mal, celle donc par laquelle la conscience se connaît comme ayant ce pouvoir et ce sait absolu, constitue la forme extrême de la subjectivité au niveau de la sphère de la moralité. Alors, l'expression la plus importante, vous l'avez à la fin du premier paragraphe, la subjectivité se posant comme absolue. C'est d'ailleurs le but de l'esprit chez Hegel, au sens universel. Donc, quelque part, c'est bien, puisque c'est ce qu'il faut viser in fine, mais pas trop vite, pas sans quelques précautions, et surtout pas sans histoire. Alors, ce mécanisme nous est encore détaillé ici. Que se passe-t-il? Dans toute action, vous avez forcément un but. Je veux manger des bonbons, je veux rendre le peuple heureux. Ça suffit. Donc, vous ne pouvez pas trouver une action sans but. Et, au moins partiellement, dans ce but, au besoin vous le fragmentez, vous trouverez toujours quelque chose de partiellement universalisable. Ne serait-ce que en voulant la terreur, j'avais une bonne intention. En poursuivant la terreur qui continue à tous nous effrayer et dont moi-même je me demande si c'est bien raisonnable, je dois quand même être sûr d'une chose, j'avais une bonne intention au départ. D'ailleurs, cette bonne intention était partagée par Danton et Robespierre, hein, historiquement. Le but, c'était de faire en sorte que la France, qui était en passe d'être vaincue à ses frontières, puisse rapidement, par une justice de temps de guerre, détruire ses ennemis de l'intérieur dont on soupçonnait qu'ils aidaient les ennemis de l'extérieur. Donc, Danton a dit « Banco, on y va ». Il ne pensait pas que ça prendrait cette allure-là, car s'il faut juger expéditivement les ennemis de l'intérieur, encore faut-il les débusquer. Or, avec la terreur, vous l'avez vu dans l'extrait, tout le monde devra prouver son innocence. C'est plus « vous devrez prouver que vous n'êtes pas coupable », c'est « vous devrez prouver votre innocence ». Donc ça veut dire que tout suspect est coupable, et qui est suspect, in fine, tout le monde. Donc c'est sacrément expéditif et sacrément terrible, hein, au sens où le terme était assumé au départ. Donc, Danton pensait que ce serait hyper transitoire et que passer 400 ou 500 procès expéditifs, ce serait terminé. Quand il a vu que ça se faisait à échelle industrielle, il a commencé à se dire, mais c'est un peu n'importe quoi, et c'est là où, notamment, il revient de sa campagne où il s'était exilé un peu pour des raisons personnelles plutôt difficiles à détailler. Peut-être il sentait aussi que le vent tournait un peu contre lui, parce que c'est vrai, hein, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup enrichi grâce à la corruption durant la Révolution. Donc, il n'est pas tout blanc. Hein, bon, en face de lui, il a quelqu'un qui... Alors, c'est toujours pareil, est-ce qu'on sait tout bon, hein, mais qui est beaucoup moins corrompu. Ça, c'est une réalité. Donc, le regard de Robespierre, il n'est pas que faux. C'est-à-dire, moi, j'incarne une certaine droiture, toi, tu t'es payé un château. Bon, il y a quelque chose qui, là, est une vraie différence. Il n'en reste pas moins que... Même si vous avez eu une bonne intention au départ, vous pouvez toujours vous accrocher à ça pour dire « donc tout le reste doit être très bien ». Quoi qu'il arrive après. Et c'est ça que veut dire Hegel lorsqu'il dit « mettre en relief dans son but un côté positif, car des côtés positifs, le but en a nécessairement ». Ben oui, c'est la bonne nouvelle, même dans les pires dessins, on peut toujours trouver un petit quelque chose de bien. Bon, c'est un principe de charité, si vous voulez. Le problème, c'est quand on applique ce principe de charité à soi-même, indépendamment de tout ce qu'il y a autour. Alors, ça vaut déjà dans ce qu'on va nommer ici l'hypocrisie, mais c'est bien plus dangereux quand de l'hypocrisie, on passe à la mauvaise foi, et quand de la mauvaise foi, on passe à l'illusion. Alors, entrons dans la description de ces états-là. On va en décrire deux. D'abord, l'hypocrisie, donc c'est le moment où il reste une certaine conscience que ce que je fais, c'est pas tout blanc. Voilà, on est dans le grisouille. Et passage au moment de la terreur, c'est le moment où vous insistez tellement sur la bonne intention et le critère formel que, quoi que vous voyez, vous considérez que c'est bien. Ça devient un filtre qui empêche toute nouvelle information de passer dans votre esprit. Donc, degré faible d'abord, qui n'est pas tout à fait celui de Robespierre. L'hypocrisie, je suis toujours sur le texte 11, deuxième page, dans son paragraphe B. Être mauvais et agir avec mauvaise conscience, ce n'est pas encore l'hypocrisie. Dans celle-ci, intervient en outre la détermination formelle de la fausseté. Le fait d'affirmer à l'intention d'autrui le mal pour le bien, c'est-à-dire de se poser extérieurement comme bon, consciencieux, pieux, ce qui n'est rien d'autre qu'un art de tromper autrui. Le méchant peut, en outre, chercher pour lui-même, dans de précédentes bonnes actions, ou dans la piété, et en général, dans de bonnes raisons, la justification du mal qu'il fait, dans la mesure où, grâce à ses artifices, il réussit à faire passer ce mal pour un bien. Cette possibilité a fait sa source dans la subjectivité, qui en tant que négativité abstraite sait que toutes les déterminations lui sont subordonnées et viennent d'elle. Alors, dans l'hypocrisie, en fait, c'est une forme du mal. C'est une forme du mal qui s'appuie sur un certain formalisme, mais on peut encore s'en sortir. On n'est pas encore passé dans la forme la plus abstruse du mal politique issu du formalisme. Pourquoi on peut encore s'en sortir ? Parce que l'hypocrite, il sait la vérité, mais il développe une argumentation pour faire croire que ce qu'il est, ce n'est pas ce qu'on a vu, ou ce qu'il va faire, ce n'est pas aussi mal qu'on peut le dire, etc. Ce qui est intéressant dans ce paragraphe, c'est qu'il passe par une argumentation, une présentation, une sophistique. Donc ce qui est intéressant, c'est que l'argumentation vient au secours du mal. Évidemment, ce n'est pas le cas de Robespierre, puisque lui est sincère, en tout cas, on ne peut pas dire que... Il a fait tout ça dans un but de gloire personnelle, pas immédiat en tout cas. De sorte que ce degré est une forme de formalisme perverti, mais pas le degré ultime. Prenons s'il vous plaît maintenant le paragraphe D, nouvelle forme du mal qui s'appelle la conviction. On n'est pas très habitué à utiliser ce terme pour parler du mal moral ou politique, mais Hegel n'hésite pas à le faire ici en ces termes. Le degré immédiatement supérieur est atteint lorsqu'on affirme que la bonne volonté consiste à vouloir le bien. Cette volonté du bien, abstrait, devrait suffire ou devrait être même la seule condition pour que l'action soit bonne. Donc on est en train de commenter Kant. Puisque l'activité, en tant que vouloir déterminé, a un contenu, et que le bien abstrait n'est rien de déterminé, c'est à la subjectivité particulière qu'est réservé le pouvoir de conférer à ce bien sa détermination et de permettre ainsi de la réaliser. Alors, je passe au dernier paragraphe. Essentiel et bon sont deux termes ayant la même signification. L'un est aussi abstrait que l'autre. Seront bons, sera bon, ce que la volonté détermine comme essentiel. Quant à l'essentiel, il sera, selon ce point de vue, ce qui est défini par moi comme bon. Ranger n'importe quel contenu sous la catégorie du bien entraîne immédiatement pour soi que ce bien abstrait, puisqu'il n'a pas de contenu, devienne quelque chose de positif, quelque chose qui a une valeur, quel que soit le point de vue où l'on se place, et qui, en fonction de sa détermination immédiate, peut tenir lieu de fin essentielle. Par exemple, faire du bien aux pauvres, prendre soin de ma vie, de ma famille, etc. De plus, si le bien est abstrait, le mal sera également ce qui est sans contenu, ce à quoi ma subjectivité seule confère une détermination. Il en résulte, selon ce point de vue, que le but moral consistera à haïr et à extirper le mal indéterminé. Le vol, la lâcheté, le meurtre, etc., dans la mesure où il s'agit d'actions accomplies par une volonté subjective, constituent immédiatement la possibilité de satisfaire cette volonté, c'est-à-dire d'être quelque chose de positif. Pour rendre l'action bonne, il suffit de reconnaître que cet aspect positif est le résultat de mon intention. Il constituera l'essentiel de la détermination de mon action en tant que celle-ci est bonne, parce que je la reconnais comme ce qui est bon dans mon intention. Eh bien, vous avez ici la figure la plus ultime du subjectivisme, au sens où, à force d'insister sur une bonne intention ou un critère formel, on fait ce qu'on veut. C'est un peu ce qu'on appelle dans la vie courante la figure du bien-pensant. Le bien-pensant, il est bien intentionné, on peut au moins lui reconnaître ça. Il vise le bien, c'est déjà ça. Sauf que quand on gratte, et c'est la raison pour laquelle on parle de lui comme un bien-pensant, lorsqu'on gratte ses propositions ou ses actions, on s'aperçoit que ce sont souvent des choses très contingentes, très arbitraires, très discutables, et pour lesquelles la forme extérieure a surtout plus compté que tout le reste. C'est-à-dire qu'on s'est arrêté par une mode, par une histoire personnelle, par n'importe quelle contingence, à un contenu particulier, et parce qu'on n'y voyait pas de contradiction, en tout cas immédiate, critère formel de la moralité, alors on l'a élevé, parce qu'on avait bonne intention, au rang d'absolu. Or, qu'est-ce qu'on élève fondamentalement au rang d'absolu en faisant passer n'importe quoi pour un absolu? Soi-même, comme juge parfait et imperturbable de tout, en toute chose. Et c'est au nom de la bonne pensée ou de la bien-pensée, des bien-pensants, qu'on peut justifier à peu près n'importe quoi. Et donc, de ce point de vue-là, Robespierre, c'est une figure ultime, publique et extrêmement rigoureuse du bien-pensant. C'est l'homme pétri de conviction. L'acteur, là, est épatant de ce point de vue-là, parce que vraiment, on sent une vigueur, alors, certes, pas dans la passion, parce que c'est pas un homme ultra-sensible, mais, en tout cas, une conviction absolue. La certitude sensible est devenue, pour me référer au début de la phénoménologie de l'esprit, est devenue certitude morale. C'est-à-dire, on est passé de l'absolu de l'ici et du maintenant dans la vie sensible à l'absolu de mon jugement moral ici et maintenant. La particularité a bien évolué. Ce n'est plus « je touche maintenant un objet », c'est « je vois maintenant ». Une action qui, moi, m'intéresse. Et là où, évidemment, ça devient inextricable, c'est que on n'a plus de critères, puisqu'on s'en est déjà donné un, pour se sortir de cette situation. On pourrait toujours dire « Oui, mais si on revient aux critères, on s'aperçoit que... » Mais... Non, Robespierre est cohérent. Il est très cohérent, hein, du début à la fin. Il est cohérent sur la base d'une abstraction. Donc, en fait, il est cohérent avec beaucoup de choses. Y compris avec ce que nous estimons être les contraires de la Révolution. Mais c'est de la cohérence formelle. Et voici texte 12, comment Hegel décrit l'effet de ce formalisme durant la Révolution française, cette fois dans la phénoménologie de l'esprit. Cette volonté singulière, entendez celle de Robespierre, ne peut donc produire ni une œuvre positive, ni une opération positive, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il ne lui reste que l'opération négative. Elle est seulement la furie de la destruction. Elle se divise dans l'universalité simple, inflexible, froide, et dans la discrète, absolue, dure rigidité de la ponctualité égoïstique de la conscience de soi effective. Je vais expliquer. L'unique œuvre et opération de la liberté universelle est donc la mort. C'est ainsi la mort la plus froide et la plus vaste, sans plus de signification que de trancher une tête de chou ou d'engloutir une gorgée d'eau. La terreur de la mort est l'intuition de cette essence négative de la liberté. La volonté universelle se convertit dans l'essence négative et se démontre aussi bien la suppression de la pensée de soi-même ou de la conscience de soi. Les consciences singulières, qui ont ressenti la crainte de leur maître absolu, la mort, se prêtent encore une fois à la négation, s'ordonnent sous les masses. Alors, ce texte est un peu difficile, mais en même temps, il arrive comme la dernière illustration de tout ce qu'on a vu jusqu'alors. C'est simplement que c'est présenté autrement. Je vous l'ai présenté ici comme l'opposition de l'universel et du particulier, ou l'opposition du nécessaire et du contingent, ou l'opposition de la bonne intention et de la particularité. Ici, c'est l'opposition du positif et du négatif, ou de l'être et du néant, ou de la vie et de la mort. C'est la même chose à chaque fois. Alors, comment présenter la chose autrement ? Eh bien, puisque vous êtes pétri de formalisme ou d'abstraction, puisque vous êtes perdu dans des idéalités abstraites, qu'on les appelle impératifs catégoriques ou qu'on les appelle liberté, égalité, fraternité. Et la vie politique est remplie de ces moments de slogans où on met un peu ce qu'on veut derrière les mots. Donc c'est pas un mal terminé à la fin de la terreur. Puisque c'est vide, fondamentalement, et qu'en même temps vous êtes dans la nécessité d'agir, puisque vous n'avez rien à mettre sur la table, eh bien votre seule opération, c'est d'installer le plus possible de rien. Puisque vous n'avez rien à donner, vous donnez rien, mais vous vous en faites un devoir. Je me fais un devoir de distribuer à tous ce que je n'ai pas. Et il n'y a pas de contradiction en cela, puisque je n'ai rien. Or, comment être actif quand on ne peut rien faire ? Dans un premier temps, d'exprimer des contingences, c'est-à-dire d'estimer que le monde va être changé en remplaçant monsieur par citoyen, par exemple. Contingence, c'est pas trop grave, hein. Mais c'est formel, voilà, ça change rien, ou pas grand-chose. D'estimer, dans un deuxième temps, encore une contingence, qu'il ne faut plus se référer à l'ancien calendrier, mais au nouveau. Nous ne sommes donc plus en janvier, mais en thermidor ou autre chose. Bon. De passer par la forme d'une religion à une autre, terminer le christianisme, vive la religion des planteurs d'arbres, adoration de l'être suprême, et religion parfaite, non pas que les religions y échappent totalement, mais là on l'assume presque, une religion de la non-contradiction où le Dieu s'appelle liberté. On adore une abstraction. Certes, les religions n'y échappent jamais totalement, mais en tout cas, on peut au moins leur reconnaître de faire l'effort de détailler leur abstraction. Bon, pour la religion de l'être suprême, je crois qu'elle a duré 3-4 ans, on n'a pas vraiment eu le temps, vous me direz. Qu'est-ce qu'aurait été une théologie de la religion de l'être suprême ? Je pense que ça aurait été aussi abstrait qu'un discours de Robespierre, en fait. Ou, si vous voulez, la théologie de la religion de l'être suprême, dirait Hegel, c'est la critique de la raison pratique de Kant. Voilà. Mais, en tout cas, c'est une abstraction. Et en dernier lieu, puisqu'à chaque fois que vous avez installé le vide au nom du vide et de la bonne conscience, il ne vous reste plus qu'à aller jusqu'au bout, puisque plus rien ne vous retient, c'est d'installer le vide lui-même. La mort ou le néant sont les dernières conséquences de tout ce qui gêne ma subjectivité parce que ça ne rentre pas dans le cadre, sachant que mon cadre, parce que je crois qu'il est déterminé, n'est qu'en fait une absence de détermination. Ce qui veut dire, et si vous m'avez bien compris jusque-là, vous comprendrez cette conclusion, que ce qui gêne fondamentalement ma subjectivité, c'est l'être. Puisque mon critère, c'est le vide. Tout ce qui est plein est en trop. Laissez un Robespierre aller jusqu'au bout, et il tuera tout le monde. Et il dira « Maintenant, tout est bien ». Je pense même qu'à la fin, il se suicidera. Et pas forcément par désespoir, par cohérence. Ah, autre chose. Est-ce qu'il dira « Ah, il y a encore une possibilité de déviance, là. Il faudrait supprimer la cause de toute déviance. L'homme est en trop dans un projet parfait. » L'homme, parce que c'est une liberté, c'est un mal toujours possible. Et si l'on veut que la révolution survive dans sa pureté, alors il faut que le pays soit pur, c'est-à-dire mort. Et donc cette phrase prend tout son sens. La terreur de la mort et l'intuition de cette essence négative de la liberté. Alors on va illustrer ça. Le néant, si je puis dire. Par un dernier extrait, alors qui est la fin de ce film sur Danton, où on assiste à la fois à la mort de Danton, bon, je pense qu'il n'y avait pas trop de suspense, et en même temps, où on voit Robespierre, c'est très bien fait dans ce film-là, prendre conscience qu'il a bâti des ruines.
Je me ai fini avec tous mes ennuis. Dormir comme une bête, enfin. Dormir. Ne me réveille pas quand tu sortiras.
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Article 2. 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et indescriptibles de l'homme. Article 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en est rien expressément. Article 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, exercer ses droits naturels de chacun ne dépend que celle qui s'assure aux autres membres de la société la jouissance de ses droits.
Voilà, on peut s'arrêter là. Alors, vous avez une conclusion qui est parfaite pour illustrer le texte hegelien. C'est que c'est sur le formalisme de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans un geste à la fois admiratif et désespéré, que Robespierre comprend la folie de sa destruction. C'est-à-dire, ce formalisme a été l'outil, la cause et le but vide, plat, nous y sommes enfin, de cette folie destructrice. Alors je voudrais conclure sur trois points. Le premier, en me référant à Charles Taylor, donc un philosophe politique contemporain, qui estime que dans cette analyse du passage des idéaux, du formalisme, des abstractions à la terreur, on a chez Hegel toute l'anticipation des totalitarismes du XXe siècle. Alors c'est toujours facile de parier sur des chevaux quand on connaît les gagnants, mais en fait, d'un certain point de vue, c'est très juste, au sens où je parle des totalitarismes, hein, je ne parle pas des dictatures ou des régimes forts, je parle des totalitarismes. Les totalitarismes sont fondés, au moins officiellement, sur des abstractions, des volontés de rassembler la totalité des gens sous quelques termes, quelques idéaux, quelques directions, qui font que la pensée est ensuite totalement orchestrée autour de cela. C'est une réorientation de la manière de penser. Et puisque c'est abstrait, eh bien, ça ne peut pas, à la fin, conduire à autre chose qu'à la folie destructrice. Donc ce qui se passe dans la terreur et dans la description que Hegel en fait, est pour lui le paradigme par lequel on peut penser encore les mots qui ont été propres au XXe siècle, du point de vue politique. Deuxième conclusion, celle-ci est plus difficile à admettre, ce moment de la terreur, si on le comprend, si on le décortique, si on l'analyse comme le fait Hegel, est malheureusement absolument nécessaire. D'où cette affirmation à la toute fin du dernier texte, extrait de la doctrine de l'essence, le mal consiste dans l'acte de reposer sur soi en regard du bien. Alors, c'est un peu difficile, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mal est une chose qui existe, contrairement à une tradition qui en fait un moindre être, et il existe parce qu'il y a un bien ou qu'on vise un bien. Autrement dit, chaque fois qu'on visera un bien, il faudra passer par son contraire sous la forme la plus dure pour accomplir non seulement ce bien, mais un bien supérieur. Voici ce qui a valu tant de critiques à Hegel lorsqu'on a dit « il justifie tous les maux de l'histoire ». C'est faux, vous voyez bien. D'un certain point de vue, il dit « c'est nécessaire », mais une fois qu'on l'a vécu, c'est pas la peine de le répéter. Il fallait en passer par là, l'histoire n'a pas à bégayer. Hegel a quelques lignes, d'ailleurs, dont se moque Marx sur les répétitions dans l'histoire. Alors, il dit, bon, dans la mesure où ce qui est rationnel est effectif et ce qui est effectif est rationnel, bref, comme il y a de la contingence dans le monde, parfois, pour que l'humanité comprenne, il faut, entre guillemets, répéter. Bon. Mais il n'a pas dit qu'il faut répéter 15 000 fois pour qu'on comprenne. Hein. Donc, il fallait passer par ce mal. D'un certain point de vue, tant mieux, on a eu la terreur. D'un autre point de vue, tant mieux, elle est passée. Peut-être qu'il en faudra encore une ou deux, voilà ce qu'il pourrait dire implicitement, certainement pas tester ça sur plusieurs siècles. Donc ne faisons pas de Hegel celui qui cautionnerait tous les pires génocides, etc. Certains l'ont dit, mais comme d'habitude, des gens qui n'ont pas lu Hegel. Enfin, en même temps, on peut toujours dire ça de quelqu'un qui a prétendu faire une philosophie politique, qu'il a servi des buts qui finalement étaient horribles. On l'a dit à propos d'autres auteurs, on l'a dit aussi à propos de la Bible à certaines époques, et on pourra le redire un jour. Mais ce n'est pas parce qu'un texte est mal lu, voire pas lu du tout, qu'il est l'origine du mal en question. Enfin, dernière conclusion, plutôt sous forme d'un projet. Je le disais dès le départ, Hegel se fait souvent critique du formalisme, alors formalisme moral ici, formalisme théorique dans d'autres textes, et donc on aurait tendance à croire qu'il rejette finalement toute vertu à ce formalisme. N'oubliez pas que chez Hegel, c'est toujours la même chose. Si une réalité est mauvaise d'un certain point de vue, en évoluant grâce à ce mal, elle va se convertir en son bon côté. Hein. Et donc, on va revenir à un certain formalisme. On n'a pas dit que tout formalisme juridique était mauvais, mais ce ne sera pas celui de Kant. Ce ne sera pas non plus celui de Kelsen, par exemple. Ce sera un formalisme qui répondrait, je pense, en tout cas je me risque à cette synthèse, à 5 critères, et je terminerai là-dessus. Premier critère, ce serait un formalisme qui chercherait au maximum à s'affranchir d'une constitution subjective des lois. Donc, au maximum, ça ne peut être qu'une législation élaborée par le peuple et pour le peuple. Ça n'est pas suffisant, mais ce serait un critère nécessaire. Deuxième critère de ce formalisme ne peut être bon que quand il émane et est explicité par un État. Alors, ce mot prend tout son sens à la fin des principes, donc bon, j'ai conscience que ça reste un peu abstrait, mais disons par une entité qui a pris la mesure de tous les mots par lesquels il fallait passer pour en sortir. En un certain sens, un état sage qui serait passé en partie par la philosophie et par l'histoire, ce qui pour Hegel est la même chose. Troisièmement, il faut que ces lois formalisées soient toujours issues des mœurs de l'époque en question. Il est hors de question d'importer les lois d'une autre époque ou d'un futur abstrait ou d'un passé révolu ou d'un autre pays en un lieu où ça ne convient pas. Car alors, on tomberait dans une autre forme d'abstraction. Autrement dit, ces lois doivent être connectées à l'histoire, et en l'occurrence à la géographie. Quatrième et pénultième critère, il faut que l'État saisisse la nécessaire évolution de ces lois. Ça, c'est ce qui est le plus dangereux dans ce nouveau formalisme. Parce qu'il faut à la fois prendre en compte le rôle de l'histoire, donc reconnaître que des lois qui avaient un sens un temps pourraient ne plus en avoir après, et en même temps, ne pas tomber dans une défiance vis-à-vis des lois qui consiste à dire bah, « puisque les lois changent, il n'y a plus de raison de les respecter ». Donc c'est un drôle d'équilibre à trouver. Et Hegel n'a jamais dit qu'il était facile, et c'est pour ça qu'il faut toute la marge de l'histoire pour en voir le bout. Donc cette sortie d'un formalisme de la terreur ne conduit pas à un formalisme parfait qui évitera toute forme de terreur, mais a tout de même plus de chances de nous en rapprocher. Et enfin, là c'est encore plus difficile, il faut que les hommes, les citoyens qui sont soumis à ces lois, ne reçoivent pas ces lois comme des lois de l'extérieur, contingentes, arbitraires, dont ils ne comprendraient pas le sens, mais qu'ils parviennent à ce que Hegel appelle, au paragraphe 211, la conscience des lois, c'est-à-dire qu'ils comprennent que ces lois sont issues d'un formalisme qui trouve sa justification dans le devenir historique lui-même. Alors c'est là ce qui paraît le plus difficile. Déjà, tous les autres critères sont assez complexes. Mais cela veut dire, et on a le même problème, les Canuls savent bien, chez Platon, chez Aristote, chez Rousseau, etc., c'est qu'il faut des citoyens très intelligents, c'est-à-dire pour Hegel, philosophe, c'est-à-dire historien, et c'est-à-dire en dernier lieu, hegelien, pour qu'ils comprennent que le vrai formalisme, c'est celui de la dialectique spéculative, et non pas celui de l'entendement séparateur kantien. Et alors, non seulement ils ne subiront plus de terreur, mais ils seront même heureux dans l'état le plus parfait. Voilà, je vous remercie.
Merci à Mathieu, dont la première qualité est de tenir strictement l'horaire et d'arriver à sa conclusion. Il restera, entre autres, pour ça, toujours pour moi, un maître. Et un immense merci de nous avoir introduit à Hegel. Je crois d'en avoir rien laissé tomber de la complexité en nous montrant des films dont, notamment le dernier extrait, je pense, pour chacun d'entre nous, résonne par rapport à l'actualité de façon très forte. Tu n'as pas cherché à trop jouer sur l'affect et à nous plonger, mais je pense que la résonance avec l'actualité était très très forte et du coup donne à la philosophie son rôle aussi d'éclairer le présent par le détour de textes très compliqués mais très forts. Donc un immense merci encore et je vous invite pour quelque chose qui sera très différent, mais tout aussi passionnant, donc à venir le 9 janvier au Théâtre de Neuilly, écouter Jean Caron, réagir cette fois-ci plutôt à la COP21, et donc à la question « Le droit devant le défi de l'environnement ». Un immense merci à vous et bon week-end.